Mélanie Delot, bonjour.
Bonjour, monsieur Lavergne.
Donc aujourd'hui, on va faire un petit point d'actualité, on va dire d'étape peut-être, hein, sur le RBM, donc l'engagement pour le renouveau du bassin minier. Est-ce qu'on peut dire que c'est une mission ?
Alors, c'est un partenariat qui engage donc l'État, la région, les départements du Nord, du Pas-de-Calais et 8 intercommunalités du bassin minier. Mais c'est un partenariat sur 10 ans. Donc oui, quelque part, il y a une ambition, en tout cas, d'arriver à améliorer les conditions de vie des habitants, visiblement en 10 ans, et puis de contribuer à redonner une attractivité au territoire, à donner envie à d'autres habitants, visiteurs, investisseurs de s'y intéresser.
Voilà, donc est-ce qu'on peut dire qu'au départ, c'était une volonté de recréer un cadre à partir de ce qui avait un petit peu disparu, ce qui s'était disloqué avec la désindustrialisation et donner des perspectives d'avenir aux habitants?
Oui, sachant que le RBM a commencé en 2017 et donc il venait après déjà une série de programmes de revitalisation. L'industrie automobile dans le bassin minier, c'était des choix d'aménagement du territoire qui datent déjà des années 70 et 80. Donc ça n'a pas démarré lors de l'ERBM, mais par contre l'idée c'était d'aller renforcer tout ça en travaillant ensemble avec les compétences des différents partenaires autour de la table. Par exemple, sur la rénovation des cités minières, il y avait eu 5 cités pilotes qui avaient été rénovées avec l'appui des bailleurs, des pouvoirs publics et de l'expertise de la mission bassin minier avant 2017. L'inscription UNESCO est venue confirmer la valeur patrimoniale de ces cités, notamment. Et donc, dans le RBM, on est passé à la vitesse supérieure en rénovant en cible 23 000 logements. Et là, à la fin de l'année 2025, on est à 18 000 logements déjà rénovés. Et puis, il y a les espaces publics autour de ces cités, un certain nombre de cités. On est à 42 cités aujourd'hui qui bénéficient d'une rénovation pour que, visiblement, les extérieurs aussi soient plus jolis. On remette de la végétation. On adapte aussi les cités au changement climatique qu'on perçoit de plus en plus fortement maintenant et qui était peut-être moins sensible avant 2017.
Alors c'est vrai qu'en quelques années, on voit des orientations qui se dessinent avec des exigences, notamment par rapport à la durabilité, à l'écologie, etc. Il y a plus d'exigences dans les constructions, il y a des rénovations qui sont plus ou moins prises en charge, mais qui sont quand même nécessaires. Quand on voit un petit peu les météos qui changent en ce moment, on se dit qu'il va falloir rattraper le temps perdu. Donc on a quand même l'impression qu'il y a des paramètres qui évoluent très vite et qu'il faut à la fois les prendre en compte pour réagir, mais aussi il y a tout ce lourd passé passif qu'il faut intégrer de manière dynamique aux problématiques qui évoluent sans cesse.
En fait, on ne peut pas faire table rase et recommencer de zéro. Donc, même si les normes de construction maintenant tiennent compte de l'obligation de performance thermique supérieure, il y a très peu de nouveaux logements qui sont construits. On va devoir faire effectivement avec l'existant. Et c'est ce qu'on fait pour les cités minières dans le cadre de l'ERBM, qui sont complètement rénovées de l'intérieur. On passe de petites pièces de 9-10 mètres carrés qui étaient faites pour être chauffées au charbon à des logements traversants avec une porte vitrée qui donne sur le jardin, etc., mais qui sont beaucoup mieux isolés. Et donc ça permet en hiver de faire des économies de chauffage et d'éviter la hausse des factures qu'ont pu connaître les logements qui n'étaient pas rénovés, par exemple. Et puis il y a quand même ce caractère patrimonial qui fait qu'on veut garder encore des maisons de briques. Donc on rénove par l'intérieur, mais en ouvrant avec des logements traversants, comme je le disais, ce qui fait qu'on récupère quand même en espace ce qu'on perd en épaisseur d'isolation sur les murs. Et je pense que les gens sont attachés en fait à garder cet esprit cité minière de briques. Et puis c'est ça qui fait aussi un peu le charme des cités minières.
Est-ce que la population, elle veut rester sur place ou est-ce qu'une partie d'entre elles souhaite un peu échapper à ces façons d'être, à ces façons d'être ensemble aussi, dans des collectivités, dans des réseaux de personnes, avec un fonctionnement peut-être un peu patriarcal au départ?
Les cités minières ont été construites initialement pour que les gens n'aient aucune raison d'en sortir puisque la mine était au fond de l'allée, au bout de l'allée principale, l'école, la coopérative, l'église, tout était au sein de la même cité minière. Et c'était quelque part un peu effectivement une volonté de garder sous contrôle hein, la main-d'œuvre. Aujourd'hui, la mine a disparu, donc il faut sortir, il faut aller chercher du travail ailleurs. Et on voit qu'on a parfois du mal à retenir des jeunes bien formés, qui ont du potentiel, qui vont aller chercher un diplôme ailleurs, qui ne reviennent pas toujours sur le territoire. Et c'est tant mieux pour eux, c'est tant pis pour nous. Et puis, il y a des jeunes qui restent ici parce qu'ils n'ont pas forcément confiance en eux ou sont pas forcément... Parfois, les familles n'ont pas forcément confiance dans la possibilité d'aller trouver quelque chose de bien plus loin. Et donc, ces jeunes-là, il faut quand même pouvoir leur offrir aussi un avenir sur le territoire. Et donc, il y a un axe dans l'ERBM de favoriser l'emploi localement, pas en faisant 80 km aller-retour tous les jours. Et là, il faut travailler sur l'orientation et la formation des jeunes. On a des entreprises qui s'installent, on a des gigafactories qui arrivent, mais il y a aussi tout le tissu industriel qui est quand même assez dense et qui parfois a du mal à recruter. Et en face, on a des jeunes ou des personnes inactives. Donc il faut essayer de reconnecter en fait, l'offre et la demande.
Est-ce que l'offre en formation locale est suffisante pour combler les besoins ou rendre les jeunes compatibles avec l'évolution de l'emploi dans les métiers d'avenir?
Il y a une question d'offre, il y a aussi une question d'orientation des jeunes. Quand on écoute l'éducation nationale, on a quand même un très bon niveau dans des lycées techniques. Justement parce que peut-être les jeunes qui auraient le potentiel d'aller faire des études universitaires n'osent pas et donc restent dans ces lycées-là. Maintenant, peut-être que si je prends l'exemple de certains lycées pro qui nouent des partenariats avec d'autres lycées pour faire des échanges dans le cadre de Erasmus, une fois que ces jeunes-là sont partis pendant un mois à l'étranger, ben, ils osent un peu plus aller plus loin. L'enjeu, c'est aussi de pouvoir faire revenir ces jeunes. Et je pense qu'on aura plus de facilité à faire revenir des jeunes bien formés et aussi des catégories socio-professionnelles plus diversifiées si on a la possibilité de partir et de revenir. Et pour ça, il nous faut des systèmes de transport en commun efficaces. Et donc on a ce projet de réseau express métropolitain, le CERM, qui mettra, une fois que les études seront terminées, une fois que les travaux seront réalisés, le bassin minier à 15 minutes de la métropole lilloise. Et ça aussi, c'est un facteur d'attractivité et de rééquilibrage territorial. Ça permet d'aller faire des études de médecine sur l'île, par exemple. Mais ça permet aussi à des cadres d'habiter le bassin minier et de pouvoir accéder à l'offre culturelle locale ou d'Arras ou de l'île de façon beaucoup plus fluide. Donc ça rendra tout le territoire, je pense, globalement plus attractif aussi.
Donc là, il y a trois agglos autour de Lens, Béthune et Nain-Carvin, qui ont décidé de rendre gratuit le bus. C'est quelque chose d'assez original. Enfin, dans la région, je pense que c'est vraiment pour les gens quelque chose d'intéressant.
Je pense que la fréquentation montre que c'est un vrai succès. Maintenant, c'est fait avec l'offre existante et on voit que les déplacements restent quand même majoritairement dépendants de la voiture. Donc il y a encore sans doute tout un travail à faire via les transports en commun, via les mobilités actives comme le vélo, y compris avec l'assistance électrique, qui permet de faire un certain nombre de kilomètres et de braver les intempéries qui ne sont pas si fréquentes que la réputation du bassin minier pourrait le laisser penser et qui permettent d'élargir en fait le cercle de mobilité des jeunes, des étudiants et même des habitants plus largement.
Donc le transport, bon, c'est réglé en partie. Ça va encore s'améliorer avec la liaison vers Lille, j'imagine. Espérons, bien sûr. C'est un vieux projet déjà. Il va sans doute se concrétiser, on va dire. Projet d'avenir. Et puis, il y a d'autres paramètres comme, par exemple, la santé. Est-ce que là aussi, il y a une réflexion qui est mise en place pour favoriser l'accès aux soins déjà?
Alors, la santé, c'est un vrai enjeu dans le bassin minier. On a entre 3 et 5 ans d'espérance de vie en moins par rapport à la moyenne nationale, selon qu'on est une femme ou un homme qui naît dans le bassin minier. Ça s'explique par de l'accès aux soins, mais l'accès aux soins et aussi des actions, enfin une approche à la prévention. En termes d'accès aux soins, on a quand même la chance d'avoir hérité de l'ancienne sécurité sociale des mines qui avait un certain nombre d'implantations, des cliniques et des dispensaires dans le bassin minier qui sont devenus l'ANAC et Filiéris qui servent aujourd'hui toute la population. Donc il faut préserver tout ça et c'est un des axes de travail de l'ERBM avec l'appui de la région, de l'ARS. L'autre axe, bien sûr, il y a la capacité à attirer des médecins, mais on se rend compte que les statistiques montrent que des jeunes qui sont issus d'un territoire et qui se forment à la médecine ou au métier du soin ont plus de chances de revenir y exercer. Donc il y a cet enjeu aussi, pas uniquement d'aller chercher des médecins d'ailleurs, mais aussi de convaincre des jeunes du territoire de s'orienter vers ces métiers dont on a besoin ici. Et donc ensuite de faciliter les études pour ça. Et puis en termes de prévention, on a aussi un vrai enjeu à faciliter, à encourager les gens à se faire dépister plus tôt par rapport au cancer, aux maladies cardiovasculaires. Ce n'était pas forcément la culture ouvrière qui allait dans ce sens-là. Et donc maintenant, arrêter de fumer, soigner son alimentation, reprendre une activité physique, ça joue beaucoup aussi en matière de déterminants de santé. Donc dans le cadre de l'ERBM, on a lancé avec l'ARS, la région, les départements et les intercommunalités un certain nombre d'actions. Par exemple, donc les intercommunalités travaillent sur la précarité alimentaire à travers les programmes alimentaires territoriaux et on a organisé la semaine dernière encore toute une journée sur le potentiel que présentent les jardins du bassin minier. Dans toutes les cités minières, on a des jardins individuels pour de l'autoproduction, pour aussi se vider la tête, donc pour la santé mentale, pour la santé sociale, c'est-à-dire ne pas être isolé, parler à ses voisins, garder du lien social. Sur les sujets d'activité physique, il y a en fait tout un terrain de jeu dans le bassin minier que sont les anciens terrils, les chemins de halage, les anciens cavaliers qui offrent en fait des terrains de pratique de sport de plein air. Et là, on a par exemple la mission bassin minier organise des compétitions sportives dans lesquelles on peut greffer des actions d'accompagnement de femmes très éloignées du sport qui, au bout de 3 mois d'entraînement, sont capables de courir 10 km et qui transforment en fait leur quotidien parce qu'elles sont obligées de prendre de nouvelles habitudes et ça a même un impact sur la pratique sportive de la famille.
Donc dans le bassin minier, est-ce qu'il y a suffisamment de médecins, de soignants, etc. Ou est-ce qu'il y a de grands manques et est-ce que ce manque serait préjudiciable à la santé publique?
Je pense que dans tous les territoires, il y a eu une baisse du nombre de médecins généralistes et on est en train de tout doucement remonter la pente. La RS nous disait en réunion encore lundi qu'il y a une augmentation de 18% du nombre d'étudiants dans les études de médecine depuis 5 ans. Ça veut dire que les premiers internes arrivent là à partir du mois de l'automne 2026 sur l'ensemble des territoires. Et donc dans les Hauts-de-France, on devrait voir en théorie plus 18% un peu partout. Maintenant, il y a la question de comment sont localisés ces internes. Et donc d'où l'idée d'aller susciter des postes d'internes sur les territoires qui en ont plus besoin. Et c'est ce que fait aussi l'ARS. On a un nouveau dispositif qui entre en vigueur cette année qui s'appelle les docteurs juniors. Donc c'est la dernière année en fait de spécialisation des médecins généralistes qui suppose de faire un stage d'un an aux côtés d'un médecin généraliste. Et donc il va y avoir une 50aine de postes de docteurs juniors à partir du mois de septembre qui ont été pourvus parce que 50 médecins généralistes formés ont accepté de prendre un stagiaire. Et donc ce dispositif permet, sous réserve d'avoir des locaux, de assez rapidement augmenter le nombre de médecins et peut-être, par rapport à ce que vous disiez en termes de départ, déjà de prendre le relais de médecins qui partiraient à la retraite. Parce qu'on sait aussi qu'on a cette évolution démographique qui fait que mécaniquement, beaucoup de médecins vont partir à la retraite dans les 5-10 ans qui viennent. Donc ce mécanisme de docteur junior, ça peut être l'occasion de transmettre une patientèle, par exemple.
Donc à Lens, par exemple, le sport est important. On entend là des matchs qui sont retransmis. Il y a une vraie passion. Et puis il y a aussi, on va dire, un public qui est particulier à Lens et qui est adorable. On va dire, quand on assiste au lendemain de la Coupe de France gagnée par Lens, à la fête qui a suivi, on voit que les gens sont bienveillants, sont heureux. Donc il y a un vrai potentiel humain dans ces gens qui se traduit lors de ces moments festifs, peut-être qu'on n'a pas ailleurs dans d'autres villes. Comment on peut, j'allais dire, entre guillemets, capitaliser tout ça?
Bonne question. Pour moi, c'est aussi un signe d'attachement au territoire. Les gens sont, c'est sans doute l'héritage un petit peu de la culture de solidarité aussi des mines. Les gens se retrouvent pour faire la fête, vraiment pour faire la fête. On est peut-être moins dans l'esprit de compétition qu'on va trouver sur d'autres clubs où il y a des dégradations dès qu'il y a une victoire. Et puis on a vu toute la région affluer à Lens en fait après la victoire en Coupe de France. Donc c'est quelque chose qui est contagieux. C'est pas que dans le bassin mine. Et d'un seul coup, tout le monde était supporter de Lens. Comment exploiter ça en faveur de la santé des habitants?
Ou bien aussi de l'implantation d'entreprises, peut-être des gens qui se diraient, ben tiens, s'implanter à Lens, il y a des bonnes équipes, on pourrait la jouer locale aussi.
Mais je pense qu'il y a des entreprises hein, déjà qui sont partenaires du RC Lens. Maison et Cité, par exemple, qui a permis à des jeunes, au mois de décembre l'année dernière, à Noël, des jeunes, des enfants, des locataires, en fait, d'aller rencontrer le RC Lens, d'aller visiter le stade. Donc voilà, il y a des entreprises du territoire qui sont attachées. Je vais vous parler aussi de la Fondation des Lumières, qui a été notamment fondée par Maison et Cité, mais à laquelle participent d'autres entreprises du territoire, qui soutient aussi des projets portés par des habitants dans les cités minières ou ailleurs, sur les thématiques de l'alimentation, par exemple. Donc là, on reboucle la boucle sur des sujets de santé. Oui, il y a quand même des entreprises aussi qui sont attachées au territoire et qui essayent d'agir. Et d'ailleurs, donc on organisera au mois de novembre un colloque qui va s'intituler « Entreprendre, innover et créer pour le bassin minier » où on espère pouvoir mettre en valeur justement des initiatives d'entreprises attachées à ce territoire ou de créateurs et d'artistes aussi qui valorisent le territoire et qui s'investissent. Et pourquoi pas des radios libres.
Alors, on voit quand même beaucoup d'initiatives qui existent, qui sont présentées. Le grand public ne sait pas forcément tout ce qui est mis en place, tout ce qui s'est réalisé. Je suis pas sûr qu'il ait ou qu'il soit intéressé déjà par l'information, mais au-delà de ça, comment il accède au fait qu'il y ait un colloque à tel endroit où il y a des choses passionnantes qui se déroulent avec des présentations de projets auxquels il pourrait participer, mais l'effort d'aller dans ces endroits et déjà de savoir que ces moments existent, c'est pas aussi simple.
Alors le bassin minier, c'est 1,2 million d'habitants. Donc on rêverait de pouvoir tous les toucher, mais c'est plus grand en termes de population que la métropole lilloise. Ce qu'on fait par contre, c'est qu'on ne peut pas inviter tout le monde aux événements qu'on organise, mais il y a toujours une restitution. Et notamment sur le site web de la préfecture de région, tous les événements sont suivis de rapports et donc qui sont accessibles à ceux qui le souhaiteraient. Mais évidemment, il faut encore être au courant que ça a eu lieu. On a essayé de renforcer quand même beaucoup les manifestations autour de réalisations concrètes de l'engagement pour le renouveau du bassin minier depuis l'année dernière. Les bailleurs et les collectivités ont organisé par exemple des inaugurations dans les cités minières où la presse participe. Il y a eu aussi des temps forts de recrutement et tout ça a été valorisé dans un petit catalogue qui se trouve aussi sur notre page web. Mais ça a donné à chaque fois lieu à des relais qui ne sont pas de la communication portée par le RBM, qui sont le regard que les journalistes portent sur ces réalisations. Et je trouve que c'est encore plus fiable. Parce que du coup, ça n'est pas de la communication officielle. C'est comment tout ça est perçu du point de vue des journalistes qui en parlent, évidemment, qui sondent aussi les habitants sur ces sujets-là.
Alors justement, il y a des gens qui fréquentent des lieux comme les centres sociaux, etc. Est-ce qu'il y a des animations qui permettraient à ces personnes qui viennent régulièrement dans ces lieux d'avoir connaissance de leur environnement, on va dire, et comment ils pourraient y intervenir?
Alors sur les sujets, par exemple, d'emploi, quand il y a des événements de recrutement pour pouvoir participer à la rénovation des cités, puisqu'il y a des obligations pour les entrepreneurs de recruter des personnes en insertion, il y a eu l'année dernière une bonne quinzaine d'événements organisés dans les cités en rénovation, avec les centres sociaux, avec les missions locales, avec les acteurs de l'emploi, pour faire venir des habitants du coin ou un peu plus large et bénéficier de l'information sur les entreprises qui recrutent pour les chantiers. Et parfois, ça s'est même doublé à des entreprises même hors du BTP. Donc les communes sont assez actives. Le département du Pas-de-Calais anime tout ça côté Pas-de-Calais. Dans le nord, on a les maisons Nord Emploi, mais également les bailleurs qui sont très mobilisés pour organiser ces événements. Donc il y a toujours, sur ce thème de l'emploi, des événements de proximité. C'est juste un exemple. Sur les sujets de santé, on a expérimenté une formule qui s'appelait le village santé des femmes en 2024, puis en 2025, portée par le centre hospitalier de Valenciennes, qui a touché 2000 femmes et qui a tellement bien marché que l'agglomération et le département ont continué à financer 3 ou 4 éditions depuis. Le concept, c'est qu'on sort l'hôpital hors des murs, que les acteurs locaux de santé travaillent avec la CPAM pour aller chercher des femmes qui n'ont pas participé depuis un bout de temps au dépistage organisé des cancers, par exemple, les bailleurs sociaux, les centres sociaux, les acteurs qui sont en contact de ces dames les invitent à participer. Il y a même eu une opération d'ambassadeurs, d'ambassadrices qu'on a appelée voisines malines au sein d'une cité minière, où c'était des dames formées qui allaient frapper aux portes de leurs voisines en disant « Tiens, ce serait important peut-être de participer à ces dépistages ». Et on a même eu des bus qui venaient acheminer les dames sur le lieu du village santé. Et il y avait des diagnostics qui étaient réalisés sur les dents, sur les problématiques de cancer, sur les problématiques de violence intrafamiliale, sur tout un tas de sujets pendant la même journée dans une ambiance un peu décontractée. Parfois, c'était avec des stands sur l'herbe, il y avait de quoi se restaurer, etc. Donc pour dédramatiser en fait, le dépistage et pour ensuite raccrocher tous les diagnostics qui auront été faits au parcours de soins pour que les dames qui auront été dépistées ne repartent pas dans la nature et qu'elles soient effectivement accompagnées. Sur Béthune-Bruet, c'est un dispositif mobile donc qui fait le tour des 100 communes de l'agglomération avec des permanences dédiées aux femmes, c'est-à-dire des dispositifs d'aller vers, en fait, où on n'attend pas que le public vienne vers le système de soins, mais on va activement les chercher avec une médiatrice santé et une infirmière en pratique avancée qui peut pratiquer déjà un certain nombre d'actes. Donc je crois que ça, c'est une formule intéressante pour les publics qui sont peut-être moins mobiles, moins informés et un peu effrayés aussi, impressionnés par le système de soins. C'est là, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, la présence médicale est une chose, mais après, il faut aller aussi chercher les publics et puis essayer de transformer les habitudes de vie.
Donc développer la confiance en soi, la confiance aux autres aussi, ça ce sont des pratiques peut-être encore à définir, à développer. Et puis il y a aussi se dépasser, par exemple le sport, des femmes qui courent avec l'objectif de se dépasser physiquement, ça peut aussi motiver.
Oui, on l'a vécu 2 années de suite et on a l'ambition d'augmenter encore l'année prochaine. Donc tout est parti d'une... un petit séminaire de réflexion sur comment développer l'activité physique des femmes. C'était l'année des Jeux Olympiques. Et puis l'association Mission Bassin Minier, qui porte une expertise sur la reconversion du patrimoine minier, organise aussi tous les ans un trail des pyramides noires. Et lors de la journée, elle dit pourquoi pas préparer de zéro une quarantaine de femmes. C'est ce qu'ils ont fait. Donc pendant 3 mois, avec d'abord un diagnostic santé, diététique aussi, des sorties de cohésion et un effet de groupe qui fait qu'à la fin, les 40 femmes ont franchi effectivement la ligne des 10 km du trail. Il y a eu un chouette film qui a été réalisé là-dessus. Et certaines nous ont dit, en fait, j'ai dû adapter mon organisation à la maison pour faire garder mes enfants. J'ai commencé à aller au sport alors que c'était que mon mari qui y allait tous les dimanches. Et finalement, les enfants sont venus courir avec moi sur les terrils. Donc, ils ont redécouvert un espace à proximité pour faire du sport pas loin, pas cher. Et certaines qui ne se croyaient pas capables de le faire est arrivée en larmes sur la ligne d'arrivée. L'une d'elles a même créé une association sportive qui existe toujours à Salomine. Parce que derrière, l'enjeu, c'est de trouver des endroits où on peut continuer à pratiquer, pas pour la compétition, mais pour la santé, pour le bien-être, et en groupe avec des gens qui nous ressemblent un petit peu, en tout cas des gens qui ne sont pas dans l'esprit compétition. Et donc ça, c'est un travail qui est porté aussi avec la DRAGES, donc le service de l'État jeunesse et sport et engagement, pour mobiliser les associations sportives en leur disant « offrez ce type d'offres. La compétition n'est pas tout. Vous avez aussi un public qui a besoin de revenir vers le sport santé, mais il faut pouvoir fournir des pratiques ou adapter un petit peu les créneaux pour tenir compte de ce public. »
Voilà, donc on va essayer de conclure 2025-2027. Qu'est-ce qu'il reste comme projet ambitieux à mettre en place avant 2027 dont on n'aurait pas parlé ?
Alors, on a défini un cadre de travail sous la forme d'une convention qui a été signée par les 12 partenaires au mois de septembre l'année dernière en présence de Madame Létard et de Monsieur Rebsamen, qui était ministre à l'époque, et qui définit 5 axes de travail. Donc toujours continuer sur la rénovation des cités minières et la transition énergétique à travers la promotion des réseaux de chaleur. Il y a un deuxième axe sur le retour à l'emploi local, y compris en travaillant sur l'orientation des jeunes grâce à une action renforcée de l'éducation nationale. Il y a un axe sur la mobilité, et notamment les mobilités actives dont je parlais tout à l'heure. Un axe sur la santé, pour continuer les projets dont je vous ai parlé, mais les étendre sur l'ensemble du territoire, aussi bien en matière de santé des femmes que d'accès des jeunes aux professions du soin, dans l'espoir qu'ils reviennent aussi pratiquer sur le territoire. Et puis le dernier axe, c'est l'accès à la culture et au patrimoine, et notamment le patrimoine naturel, à travers les terris, les chemins de halage et tout un système de réseau point nœud qui va mailler le territoire pour faciliter justement les déplacements en marche ou à vélo.
Voilà, donc il y a encore beaucoup de choses à engager et beaucoup de choses à mettre en place. On verra pour 2027-2029 comment ça va se passer.
Ah mais on a encore jusque fin 2027 pour travailler, donc le travail n'est pas fini et tous les partenaires sont bien engagés. D'ailleurs, on vient de relancer toute une série de rencontres avec les élus après les élections pour garder le rythme.
Merci Mélanie Delot.
Merci Monsieur Lavergne.